Shalom à tous. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons développer le terme qui correspond à notre temps. Et je veux dire que nous allons parler, Be'ezrat Hashem, de Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, ce fameux jour, ce fameux sommet dans les jours de Yemei Teshuvah, de Aseret Yemei Teshuvah, dans les 10 jours de Teshuvah qui ont commencé à Rosh Hashanah et qui, Be'ezrat Hashem, se termine Yom HaKippourim, bien que la Teshuvah elle-même continue sous d'autres formes, le fait de proclamer Dieu roi de l'univers et roi sur nous continue durant toute l'année. Bien entendu, nous prenons une parenthèse dans tous ces moments-là et nous essayons de faire sortir l'essence, tant qu'on peut le faire, de ces jours-là. Donc Yom HaKippourim, on va essayer de comprendre un petit peu la racine et la qualité de cette journée. Vous remarquez tout de suite déjà que Yom HaKippourim est au pluriel. On ne dit pas Yom Kippour, c'est une faute. Okay? Yom Kippour n'existe pas. Yom HaKippourim, la Torah parle de Yom HaKippourim et pas de Yom Kippour. Précisément au pluriel, pour nous dire que ce jour-là, deux mondes se rencontrent. C'est-à-dire, nous avons un monde dans lequel nous sommes qui va rejoindre un autre degré, une autre vérité, la vérité en fait, absolue, l'intériorité de ce monde, ce qui cache, ce qui se cache à l'intérieur de ce monde. Et donc, nous avons ce lien. Et lorsque nous faisons le lien entre ces deux mondes, nous pouvons parler de kapara, de nettoyage, et que le jour de Yom HaKippourim puisse agir sur nous. Yom HaKippourim hu echad bashana. Les sages nous expliquent un secret, c'est que Yom HaKippourim est appelé l'unité du temps. Bien entendu, le temps étant donné que ce monde a été créé et qu'il est dans la pluralité, qu'il est dans le pluriel. Moralité, le temps existe que dans ce monde de détail. Je veux dire par là que le monde du détail dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que le monde a été créé par la lettre Bet, c'est le début du pluriel, c'est un monde pluriel. Donc, dans ce monde pluriel, qui est basé sur le chiffre 2, qui est le minimum du pluriel, il y a la possibilité de changer. Le mot « shana » est lié au chiffre 2, « shnaim ». Ça veut dire que le temps, donc la possibilité de changer, est lié au changement, donc à la seconde, « shnaim »,« shnia », la seconde, la deuxième, et toutes les notions de temps sont liées automatiquement à la qualité, à la capacité de l'homme de s'améliorer. Mais dans un monde initial, avant que ce monde ne soit le monde qu'on connaisse, il existe un autre degré, un degré beaucoup plus intérieur, un degré où le changement n'existe pas, donc où le temps n'existe pas. Et ça, c'est le monde du divin. Donc nous avons en fait en parallèle deux mondes, le monde divin et le monde dans lequel nous sommes. Je dis en parallèle, mais en réalité, l'un cache l'autre. Le monde dans lequel nous sommes s'appelle Olam en hébreu, qui veut dire cacher quelque chose, celui qui camoufle quelque chose, celui qui cache en lui autre chose. Donc le Olam Hazé cache le Olam Haba. Ce monde matériel cache un monde plus intérieur, un monde qui vient, un monde de l'ordre de l'âme, qui est à l'intérieur de lui. Lorsqu'on gratte le Olam Hazé, lorsqu'on ouvre le Olam Hazé, lorsqu'on trouve la porte, l'accès dans ce monde-ci, on peut toucher, entre guillemets, le Olam Haba. Donc le Olam Haba apparaît à nous beaucoup plus clairement, alors qu'il existe tout le temps, mais il est caché. Il peut apparaître à nous lorsqu'on sait ouvrir cette porte dans le Olam Hazé, comme si on ouvrait une porte dans l'espace qui nous donne accès à un degré de l'au-delà. Okay. L'un, c'est comme un vêtement.
Le Olam Haba
Non, c'est pas deux choses différentes. Ce sont exactement comme le corps et l'âme. Le corps et l'âme, apparemment, c'est deux choses différentes, et c'est vrai, mais ils ne vivent que lorsque l'un est dans l'autre, véritablement. C'est-à-dire que le Olam Haba, c'est notre Neshama, qui est couvert du Olam Hazé, qui est notre corps. Donc notre corps est le véhicule, en même temps il cache, mais il permet de faire avancer notre Olam Haba intérieur. Et lorsqu'on sait associer les deux, on est dans l'équilibre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le nom Kippourim est au pluriel. L'un représente le corps, donc celui qui cache, mais celui qui fait en même temps dévoiler, et le Olam Haba qui est l'intérieur. Quand je dis qui cache et qui fait dévoiler, apparemment je me contredis. Mais dans ce monde, on ne peut dévoiler que lorsque l'on cache. C'est-à-dire qu'on apparaît en se vêtissant. D'accord ? Ça veut dire que si je ne suis pas habillé de mon corps, mon âme ne peut pas se réaliser. Donc je cache mon âme d'un côté, mais c'est ce qui lui permet de se dévoiler. Okay.
Est-ce qu'on pourrait parler de véhicule et de réceptacle ?
C'est la même chose. Je dis deux fois la même chose. Okay. Le véhicule, c'est le réceptacle. Mais je parle de lumière et de réceptacle. Ou de lumière et de véhicule. Oui. C'est-à-dire, la lumière, c'est le Olam Haba. Et le véhicule du Olam Haba, c'est le Olam Hazé. Donc je dois véhiculer dans le Olam Hazé, par le Olam Hazé, par le biais de ce Olam Hazé, le Olam Haba qui est intérieur. Donc Orot Vekelim, des lumières et des ustensiles. C'est trop compliqué ou ça va? Ok? Donc Yom HaKippourim, c'est l'accès, c'est ouvrir la porte au degré du Olam Haba. Donc on l'appelle Echad. Donc c'est l'unité divine, Bashana. À partir de ce qu'on vient de dire, comment vous allez traduire Bashana? Pas dans l'année. Pas seulement dans l'année. C'est sûr que c'est dans le sens premier, c'est une unité dans les jours de l'année. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici. C'est l'unité dans le changement. Shana, Shana veut dire changer. Shinui. Shinui. La capacité à changer. Donc l'invariable se trouve dans le variable. L'unité divine se trouve dans le monde qui change. Dans le monde du haut et du bas, du changement, de la dualité, de la pluralité, du Shnaim, on va découvrir l'unité divine. Ken? Au temps. Au temps. Dès que nous avons un temps, le temps c'est la distance entre deux points. Donc, dans cette distance entre deux points, nous avons une possibilité d'évoluer, de changer. Celui qui n'a pas d'espace, donc n'a pas de temps, n'est pas soumis au changement. Il est tel qu'il est, du début à la fin. Il ne bouge pas. Par exemple, les anges ne changent pas, car ils s'appellent Omdim, ils sont stables. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont stables? Le temps n'a pas d'influence sur eux. Donc, lorsqu'on descend dans ce monde-là, dans notre monde est un monde d'espace, donc un monde d'espace-temps. Qui dit espace, dit temps. Donc, nous sommes soumis, dans ce monde, au changement. Donc, nous devons changer. Pour arriver où? Pour revenir à notre identité. Nachon. Ça veut dire que dans ce Olam Hazé, dans le monde de la pluralité, dans le monde du pluriel, ok? J'ai dit, si vous devez donner une lettre au monde dans lequel nous sommes, quelle lettre vous lui donnerez? Le Bet, puisque c'est le monde de la dualité. Et le Olam Haba, quelle lettre? Le Aleph. Donc vous avez construit le Olam Haba. Le mot Ba, c'est le Bet qui trouve le Aleph. Vous comprenez? C'est tout simple en hébreu. Okay? Ça veut dire que la pluralité de ce monde, donc le Bet, doit retrouver son unité initiale divine, le Aleph. Et c'est la notion de Olam Ha-Ba. Et tout celui qui a une part à ce Olam Ha-Ba, Kol Israël, Yeshlaim, Chelek, le Olam Ha-Ba, c'est tout homme qui est capable de trouver dans ce monde de changement l'unité divine qui, elle, ne change pas. Ani Hashem Lo Shaniti. Est-ce que c'est clair ou je répète sous d'autres formes? C'est clair? Ou pas très? Il faut s'accrocher. Il faut suivre.
La notion de changement par rapport au service du temps, par rapport au temps, entre deux points qui sont représentés par le Olam Hazé et le Olam.
Je vais vous donner un exemple. Je vais vous faire un dessin, comme ça c'est plus simple. Vous avez une pyramide. Okay? Une pyramide a un sommet. Et on va dire que le sommet, c'est le point initial de la création. La création du monde, c'est sortir en fait de ce sommet, de cette unité, de cette pointe, pour descendre en fait vers un monde qui a déjà deux points. C'est-à-dire que lorsque Dieu, unité, invariable, inchangeable, se dévoile dans ce monde, crée ce monde, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va sortir en fait la pluralité à partir de cette unité. Donc le Aleph a engendré un Bet. Vous voyez, deux points. C'est comme la base de la pyramide. Lorsque dans ce monde-là, vous voyez que le triangle s'est espacé. Donc à partir du moment où il s'est espacé, il y a un temps pour arriver de ce point à ce point. Donc tout ce temps-là, c'est la possibilité pour l'homme de s'améliorer, de changer. Donc quand vous dites à quelqu'un Shana Tova, vous lui dites bon changement. Je te conseille, je te souhaite de changer, de t'améliorer. Mais plus on monte vers l'unité divine, c'est-à-dire plus on étudie, plus on arrive à trouver l'unité de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans ce triangle? On remonte les pentes. Regardez bien. On est en train de remonter. Regardez ce qui se passe. Quand je remonte la pente, à chaque fois que je monte la pente, qu'est-ce que je fais? Je raccourcis les deux points. Je rétrécis l'espace entre ces deux points. Moralité, si j'arrivais à monter jusqu'au point initial, qu'est-ce que j'annule? Le temps. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que à la fin des temps, regardez bien, écoutez bien, vous avez toujours dit ce mot sans comprendre ce qu'il dit. Pourquoi on appelle ça la fin des temps? Car c'est la fin du temps. Ça veut dire qu'on va arriver à la fin des temps. De quoi? On va monter un degré où il n'y a plus de temps. C'est la fin du temps. Qu'est-ce que c'est la fin des temps? C'est qu'on va arriver à une période où on ne va plus donner à l'homme, entre guillemets, la possibilité de changer. Il va arriver à un point où le changement n'existe plus. Il va arriver à cette unité. Les prophètes, par exemple, nous donnent des exemples, bien entendu prophétiques, qui sont des paraboles. Et ils nous disent que la femme va être enceinte et va accoucher en même temps. Donc il n'y a plus 9 mois de gestation. Hara veyoledet yardav. Elle va être enceinte, Hara veyoledet. Elle va accoucher yardav en même temps. C'est possible? Dans notre temps, c'est impossible. Mais dans ce niveau-là, c'est possible. C'est-à-dire que la cause et l'effet sont liés. Autre exemple que les sages nous disent, que les prophètes nous disent. Venigash ha-choresh bakotzer. Celui qui va labourer la terre va se cogner avec celui qui sort les fruits et les légumes de la terre. C'est possible? Non. Il faut le temps où que ça pousse. Il faut arroser, il faut que la graine se décompose et qu'elle construise, qu'elle se refabrique en forme de fruits, de légumes. Or, à la fin des temps, celui qui va labourer la terre va toucher l'épaule de celui qui est en train, en même temps, de prendre les fruits que je viens de semer. Ça veut dire qu'il y a cause et effet, source et résultat qui se touchent. Troisième exemple, toujours prophétie. Okay? Une prophétie. Tu prends la graine du raisin, donc le raisin, okay, et tu es en train déjà de sortir le vin. Et avant que tu commences, déjà il est prêt. Ça veut dire qu'il n'y a plus de temps que le vin vieillisse dans les fûts et dans tout ce qu'on connaît à chaque fois que le raisin doit vieillir pendant des années. On a raccourci le temps, on a rétréci l'espace-temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire tout simplement, pas que le temps n'existe plus, mais que les choses, quand on va arriver dans ce degré du divin, on va comprendre que chaque cause a un effet. Et quand est-ce qu'on va le comprendre? Immédiatement. On ne va pas attendre. C'est-à-dire que quand tu auras fait quelque chose de positif, tu auras la réponse immédiatement. Car il y a la fin du temps. Et chas v'shalom l'inverse. Quand tu feras quelque chose de négatif, immédiatement tu auras une conséquence. Vous comprenez comment ça marche? Donc c'est quelque chose, je conçois, difficile à entendre parce que nous sommes encore soumis au temps, mais le temps se raccourcit. C'est un sentiment même qui peut se ressentir aujourd'hui. Vous sentez que tout va vite. Le temps se raccourcit. Même au niveau réel, je peux arriver virtuellement d'ici à la fin de, au fin fond de la planète par Internet. Et combien de temps ça prend? Ça ne prend plus de temps, vous comprenez? Alors que pour diffuser ma parole il y a 500 ans, il fallait que quelqu'un écrive un livre, qu'il amène ce livre voir quelqu'un et que quelqu'un diffuse. Et ça pouvait prendre 500 ans avant que ça arrive. Aujourd'hui, tu parles et tu es entendu immédiatement. Donc le temps se raccourcit. Donc on est dans un monde où les causes et les effets sont en train de se toucher. C'est plus facile à comprendre maintenant. Ce degré-là, nous touchons ce point-là le jour de Yom HaKippourim. C'est ça Yom HaKippourim. Yom HaKippourim, c'est comme si on nous disait, vous savez, vous allez arriver à un temps messianique, un temps où le temps n'existe plus, un temps où vous allez être complètement dans un monde qui touche le point du divin. Eh bien, de temps en temps, on va vous donner à goûter. Une fois par an, on va donner à goûter de ce monde-là. Et ce monde-là, c'est Yom HaKippourim. Ce jour-là, c'est Yom HaKippourim. Ça veut dire que Yom HaKippourim, en fait, c'est comme s'il était en dehors du temps. C'est comme si c'était en dehors de l'espace-temps. Et donc, c'est comme si on annulait ce que nous connaissons de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de ce monde? Les plaisirs. On connaît le fait d'avoir à manger, de boire, de toucher sa peau, sa chair, son corps avec des pommades, des crèmes, des plaisirs, d'avoir des rapports, le monde physique. Donc vous avez 5 interdictions le jour de Yom HaKippourim, qui sont en réalité comme si on te disait « mets entre parenthèses ton monde » de plaisir corporel, physique, tel que tu les connais aujourd'hui, on va te monter dans un autre degré, tu vas faire un voyage spirituel vers le monde de Dieu, vers le monde du divin. Je viens de les dire. Ken, il se rapporte au sens de l'homme. Les interdictions sont ne pas manger, ne pas boire, ne pas s'enduire d'une crème, ne pas avoir de rapport. Ken. Et ne pas se mettre des chaussures qui nous rappellent la terre, qui nous collent encore à ce monde. Donc des chaussures en cuir. Celles qui sont en fait de la peau. Alors ces 5 interdictions sont en réalité des moyens, sont des aides. Ce n'est pas pour punir l'homme. C'est pour aider l'homme à grimper à ce monde intérieur, le monde du divin. Donc le monde de l'unité divine. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que le jour de Yom HaKippourim s'appelle le jour qui appartient encore à Dieu. Yamim Yutsaru, dans tous les jours que je crée, dit Dieu, Velo Echad Bahem. Et lui a gardé, entre guillemets, un jour qui n'a pas été encore soumis à notre monde. C'est comme s'il nous a donné tous les jours de l'année, mais il en a gardé un pour lui. Il a gardé la racine pour lui, la racine des jours, la racine du temps. Et ce jour-là, c'est le jour de Yom HaKippourim. Et de temps en temps, dans notre monde, il y a encore du temps. Donc de temps en temps, ce jour-là descend et rentre brutalement, entre guillemets, dans notre vie. Pourquoi faire? Pour nous rappeler d'où nous venons. De quel degré nous venons. Okay? De ce degré qui est au-delà, de ce degré qui précède, de ce degré qui est au-delà. Donc, Yom HaKippourim. Ou Echad Bashana. Donc on appelle ce jour-là Echad Bashana. L'unité dans le changement. L'unité dans le temps. Yom Meyuchat Shenimtsa Lemala Mimadrigat Hayamim Acherim. Donc c'est un jour qui est au-dessus de tous les autres jours que nous connaissons. Beyom Zeh Kohen Agadol Nichnas Lifnai Velifnim Bekodesh HaKodashim. Donc ce jour-là, qu'est-ce qui se passe réellement? On va faire un acte symbolique qui en réalité montre ce que je viens d'expliquer. C'est que le Kohen, le grand prêtre, va rentrer où? Dans le sein des saints. Au Beth Amikdash, mais dans le sein des saints. C'est-à-dire dans l'endroit où on ne peut pas rentrer le reste de l'année. On ne rentre que ce jour-là. Pourquoi? Parce que le saint des saints, c'est quoi? C'est le point initial de ce triangle qui va s'ouvrir. C'est comme si on revenait à la pointe. C'est ça le saint des saints. Dans le saint des saints, le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas. On est dans un monde complètement différent, mais il est dans notre monde, mais dans un autre degré. C'est comme si dans cette pièce, j'ouvrais une porte pour un autre monde. Alors, où se trouve le saint des saints? Il est ici, il est à Jérusalem. Alors, comment vous pouvez expliquer qu'un monde qui n'est pas soumis au temps et à l'espace se trouve dans le temps et dans l'espace? Vous comprenez le problème? Et ça, c'est un jeu divin qui est difficile à comprendre par l'homme, mais que Dieu nous offre un jour dans l'année. Donc, on va rentrer dans un espace-temps qui est au-delà et de l'espace et du temps. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va régler tout ce qu'on a fauté dans l'espace et dans le temps. D'accord? Car comment je peux rattraper un jour qui est déjà passé? Slicha? Bidiouk. Exactement. En reliant l'effet à la cause. D'accord? Maintenant, tu commences un petit peu à comprendre le phénomène. Parce que si je veux régler un problème qui s'est passé mardi dernier, à 15h. C'est déjà passé. Alors, quel est le moyen? C'est de revenir à un degré qui est avant le temps. Alors, c'est impossible pour l'homme. Donc, Dieu nous a offert un degré qui s'appelle la Teshuvah, qui est avant le monde. C'est pour ça que les sages nous disent Teshuvah Kadma La Olam. La Teshuvah est avant le monde, donc avant l'espace-temps dans lequel nous sommes. Et si tu arrives à monter dans ce monde qui s'appelle la Teshuvah, tu vas toucher le point qui va en réalité pouvoir régler tous les tiroirs de tous les jours de l'année où tu auras fauté. Teshuvah veut dire retour ou réponse. C'est la réponse à toutes les questions, c'est le retour à l'initial, à la cause première, à la source première, à la graine, avant que ce soit diffusé et que ça se mette en détail. Est-ce que le phénomène est clair? Exactement. Donc la Teshuvah, c'est l'unité, se revenir à cette unité, revenir à ce degré unitaire avant qu'il ne soit éparpillé, avant qu'il explose en détail. Nous sommes dans un monde de détails et la Teshuvah, c'est revenir vers le monde de l'unité. Tout en restant dans le détail, c'est difficile. Okay? Ça veut dire que je suis dans ce monde et j'accède à une connaissance d'un monde intérieur qui est riche et qui remplit le monde dans lequel je suis et qui anime le monde dans lequel je suis. Okay. Nahon. Tout à fait. Tous les manques ou les détériorations, ce sont deux manques dans deux formes différentes, c'est-à-dire où je n'ai pas fait ce que je devais faire, c'est une forme de manque, ou alors j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse, c'est aussi une autre forme. Je peux te faire du mal de deux manières. Ou je te fais du mal, je te blesse, physiquement, moralement, mentalement, par la parole, ou je ne te fais pas quelque chose que tu attendais que je te fasse. D'accord? C'est-à-dire, tu attendais de moi, en tant qu'ami, de te dire bonjour au moment où je t'ai vu, et je ne t'ai pas dit bonjour, j'ai fauté. Par un manque. Ou alors j'ai fauté par une blessure. Donc, toutes les formes de manque, ou en plus ou en moins, se règlent, peuvent se régler le jour de Yom Kippourim. Donc, je dois arriver, propre à cette journée-là, en ayant réglé le maximum de choses que je peux régler, que je connais. C'est-à-dire, si j'ai un problème avec un ami, je ne peux pas rentrer à Yom HaKippourim avec ce problème-là. Car Yom HaKippourim va me repousser, va me dire « Tu restes dehors, tu ne peux pas rentrer. L'accès est interdit. » Pourquoi? Comme on a dit que c'est un jour divin, que c'est un jour limpide, que c'est un jour supérieur. Je ne peux pas rentrer avec des problèmes que je n'ai pas essayé de régler déjà moi-même. C'est-à-dire que cette journée-là, imaginez-vous que c'est un mikvé. Tout à fait. Si des choses que vous pouvez régler, vous ne les avez pas réglées, ce jour-là, ce mikvé vous refuse l'accès, entre guillemets. C'est comme s'il y avait un refus. Comment ça va se traduire par les sages? Averot, chez Ben Adam la Chavero, les problèmes, les averot, les comment on dit avera, les manques, les malfaits, je ne sais pas, okay, entre un ami et un autre ami, en yom kippourim echaper, ad sheyiratze et chavero. Le jour de Yom HaKippourim n'y peut rien. Il ne va pas te régler tes problèmes tant que toi, tu n'as pas fait l'effort d'aller demander pardon à ton ami. Pourquoi? Parce que si tu arrives avec ce problème que tu connais, je ne parle pas de problème que tu ne connais pas.
C'est pas une absolution.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, effectivement, il y a, on rentre, on est lavé et tout, mais,
oui, mais je veux dire,
entre nous et Dieu. Tout à fait. Alors, ce qui est, on est rentré, on se lave, c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais entre nous et notre voisin, c'est-à-dire les problèmes de ce monde-là, c'est à toi de les régler. Ne crois pas que Dieu va venir te régler parce que tu as volé de l'argent à ton ami. Okay? Tu ne seras pas réglé tant que tu ne vas pas rembourser cet argent. Arrête de raconter des salades. Ne va pas prier au Kotel, ne viens pas à Yom HaKippourim pleurer alors que tu dois 1000 shekels à ton ami. Et ton ami souffre de ce manque de 1000 shekels que tu lui as pris, et tu ne le rembourses pas, et toi tu es en train de demander à Kadosh Baruch Hu pardon de lui avoir volé ces 1000 shekels. Ça n'existe pas. Tu dois régler tes dettes avant. Et après tu peux venir propre au maximum de tes possibilités, et alors ce jour-là va faire l'effet sur toi. D'accord? Donc c'est très très important de comprendre ce détail-là, qui est en réalité un tout. Donc, sans cela, c'est comme si le jour de Yom HaKippourim te dit, écoute, je ne peux pas te laisser rentrer. Ça ne sert à rien que tu rentres. Tu n'as pas encore réglé tes affaires. Tu n'as pas été au maximum de ce que tu peux, toi. Fais le maximum de ce que tu peux. Fais tes shuva. Va voir tes amis. Va régler tes problèmes. Même vis-à-vis de Dieu, essaye de prendre conscience de tout ce que tu as fait. Avec ce degré-là, je peux t'accepter. Le jour de Yom HaKippourim, tu vas continuer à faire le travail là-bas parce que le travail essentiel va se faire là-bas. Mais il faut que tu rentres déjà avec une certaine qualité. Il faut que tu aies intégré un certain niveau pour arriver à toucher le jour de Yom HaKippourim, plus exactement pour que Yom HaKippourim te touche. Donc, on va montrer ça par l'accès du Kohen Gadol au Saint des Saints. Qu'est-ce que c'est le Kohen Gadol? C'est notre envoyé. C'est comme si c'était le peuple entier qui rentrait où? Rencontrait qui? Okay? L'essence même de notre vie. La graine. Donc il va rentrer à la source du monde, à la source de la vie. Et au niveau de l'espace, et au niveau du temps. Car où a commencé l'espace de la création du monde? Dans ce lieu. Quand Dieu a créé le monde, il a commencé par un point qui après s'est élargi. Et les sages nous disent que ce point, c'est le Saint des Saints. Et de là-bas, toute la création, tout le cosmos, tout l'univers a commencé à se créer. Donc, moralité, le jour de Yom HaKippourim, on va à la source de l'espace, de tout l'univers, de tout le cosmos, et à la source de tous les temps. Par la source de tous les hommes. Le Kohen Gadol, qui est le sommet du peuple. Ok? Donc on va le rendre au maximum de ses possibilités. C'est l'homme à sa pointe. Donc on le prépare. Il faut que ce soit un homme très très sage d'avance. Il faut que ce soit quelqu'un de très grand. Et au maximum de ses possibilités, on va le faire rentrer, accéder à ce degré-là. Donc c'est le saint des hommes, dans le saint du temps, dans le saint de l'espace. C'est la pointe, la graine de tout. Donc c'est le modèle initial dans toutes les formes de ce monde. D'accord? C'est pas évident et c'est un travail. C'est pour ça que c'est un travail très difficile. Et lorsque le Kohen Gadol sortait de là-bas, c'est une grande fête.
Okay?
Et, okay? Il y avait certains problèmes, ok? Okay? Dans d'autres lieux, dans d'autres temps où le Kohen Gadol achetait, ça faussait en fait toute la journée de Yom Kippourim. Elle n'avait plus le même effet. Les Kohanim achetaient leur Keuna, leur rôle dans le degré. Okay? Mais là, on parle de l'essence comme elle devait être. Okay? Dans un corps. Le corps est aussi très spirituel. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire c'est un homme qui dépasse en fait, qui est au-dessus de tous les petits problèmes, de toutes les petites bagarres, de toutes les petites guéguerres. C'est un homme qui a dépassé tout ça. C'est le grand prêtre. Et avec tout ce que ça veut dire. Quand il y a des petites querelles, on vient devant chez le grand prêtre et il nous fait calmer tout de suite. C'est quelqu'un de très grand. Qui dépasse les petites querelles. Okay? C'est un homme qui doit être entre. Entre. Qu'est-ce que ça veut dire entre? Comme le blanc du papier, qui est entre les lettres, qui est entre les mots, entre les lignes. Okay? C'est quelqu'un qui est entre. Donc un dénominateur commun. Et c'est un degré, c'est un travail pour arriver à être un grand prêtre. C'est pas n'importe quoi. D'accord? Donc il est au sommet des hommes, au sommet du temps, donc le jour de Yom Kippourim, et au sommet de l'espace, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, en Eretz Israël, dans le Beth Amikdash. Et toutes ces rencontres, en fait, du top des tops, et au niveau de l'homme, et au niveau de l'espace, et au niveau du temps, vont nous ramener dans toutes les formes, en fait, du temps, de l'espace et de l'homme, vers la graine de tout. Du temps, de l'espace et de l'homme. Et dans la graine du temps, de l'espace et de l'homme, on va régler tout ce qui est au niveau du temps, de l'espace et de l'homme. Donc, on est censé sortir après cette journée-là, après ce voyage exceptionnel, on est censé revenir dans le temps, dans l'espace et dans l'homme, avec beaucoup plus de qualité et un changement radical, total, pour continuer notre année. Bien, on est autre. Quel est le danger maintenant? Oui, quel est le danger? Il y a fait mode. Le danger, c'est que lorsqu'on envoie ce messager-là, ce Kohen Gadol, il ne revient pas. Et pourquoi il risque de ne pas revenir? Exactement. On est trop bien là-bas. On touche le point initial de tout. On n'a plus envie de revenir dans toutes les bêtises et les petitesses de ce monde. Donc les sages nous disent qu'on attachait le Kohen avec des chaînes. C'est un exemple. Pourquoi? Pour le garder lié au monde dans lequel nous sommes. Pour avoir encore un lien à ce monde. C'est-à-dire, ça reste encore un homme. N'oublie pas que tu es un homme et que tu fais partie des hommes. Et quand est-ce qu'on va te faire la fête? Quand tu vas rentrer ou quand tu vas sortir? Quand tu vas sortir. Ce qui nous intéresse, c'est que tu ressortes. C'est bien que tu ailles là-bas. C'est bien que tu montes. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand tu ressortiras tout à l'heure, ce soir, à la fin de Yom Kippourim, on va te faire une grande fête. Ça prouve qu'il est réussi à monter, mais plus encore à redescendre. Exactement, à relier le haut, le Aleph, aux bêtes de ce monde. Il restait là-bas toute la journée. Il y avait un travail énorme qu'il faut comprendre. Ce travail-là, si tu veux le comprendre, il est dans le Moussaf de Yom HaKippourim. Là-bas, on lit le Seder HaAvoda, ce qu'il devait faire durant toute la journée et comment on le préparait 7 jours avant. C'est-à-dire 7 jours avant, on l'amenait au Beth Amikdash et on le préparait déjà. À tout le travail, et spirituel, et physique, avec les taureaux, les vaches, tout ce qu'il devait faire là-bas, pendant cette journée de Yom Kippourim. Donc il y a tout un travail, il doit se dévêtir, se rhabiller, enlever des vêtements, changer de vêtements, faire le mikvé. Toute la journée, c'est une journée incroyable avec plein de choses. Et si tu suis mot à mot ce que va dire le Chazan, le Yom Kippourim à Moussaf, tu vas comprendre le Seder à Avoda, ce qui se passait pendant cette journée-là. Et tout le peuple d'Israël attend avec impatience et prie autour du Beth Amikdash, autour du Saint des Saints, dans le Beth Amikdash, que ce Kohen Gadol sorte, okay, et que le fil rouge qu'on mettait à l'entrée devienne blanc. Là, il y avait un fil rouge de laine qui était en fait toutes les fautes, représentant toutes les fautes du peuple d'Israël, qui changeait de rouge en blanc. C'était l'un des miracles du temple, comme pour nous dire, vous avez été pardonné. Donc il y a tout un travail exceptionnel qui se fait là-bas Et tout ça parce que nous avons touché le point initial de la vie. Encore une fois, dans tous les degrés, donc de l'espace, du temps et de ce qu'on appelle l'homme, le degré de l'homme, l'âme de l'homme. D'accord ? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas ? Je résume. Pgishatenu be'oto yom im omek chayenu umahutenu. On va rencontrer, en fait, ce que nous sommes dans notre vie la plus intérieure. Ce que nous sommes dans notre identité la plus vraie. On va se rencontrer nous-mêmes, comme nous étions à l'initial, au début, au point premier, avant que nous devenions ce que nous sommes devenus. Comment tu étais, comment tu es devenu. Okay? C'est exactement ça. Okay? On va nous montrer comment nous étions au départ. Qu'est-ce que ça veut dire comment nous étions au départ? Comment Dieu voulait qu'on soit? Comment Dieu nous avait programmé qu'on soit? Et à combien de distance je suis aujourd'hui de ce degré-là? Grâce au temps ou à cause du temps? Car le temps peut devenir un piège. Si tu ne changes pas dans le bon sens, il va te faire descendre dans le sens négatif. C'est pour ça qu'on dit Shana Tova. Pas seulement Shana. Change, mais en bien. Pas seulement bonne année. Shana, de la racine du mot Shinui. Changement. Okay? Donc on te souhaite de changer dans le bon sens. Car tu peux changer Chas V'Shalom dans le mauvais sens. On continue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à cette rencontre du troisième type, okay? Ou du cinquième type, je ne sais pas. Alors la Torah nous dit, si tu veux arriver à réaliser, à gagner, à réussir cette journée-là, avec tout ce qu'elle comporte, il faut que tu sois dans un mode où tu subis les choses, où tu n'es plus actif. Arrête d'être actif ce jour-là, sois plus passif. C'est-à-dire, annule, entre guillemets, le maximum de tes activités humaines, car tu gênes plus qu'autre chose. Arrête de gêner. Arrête de me gêner. C'est comme si Dieu nous disait, un jour dans l'année, arrêtez de me gêner. Arrêtez de gesticuler dans tous les sens. Arrêtez de parler n'importe quoi. Arrêtez de penser n'importe quoi. Arrêtez d'avoir des plaisirs qui sont en dehors complètement de mon système que j'ai créé pour vous. Je veux que vous ayez des plaisirs, mais des plaisirs comme je les ai prévus pour vous. Le vrai plaisir. Donc aujourd'hui, vous allez arrêter, vous allez chômer, vous allez annuler votre existence entre guillemets terrestre et on va se rencontrer. Donc vous allez vous habiller en blanc. Pourquoi vous allez vous habiller en blanc? Parce que le blanc est une couleur qui n'en est pas une.
C'est nouveau, il n'y a pas d'origine.
Exactement. C'est la source de toutes les couleurs. Dans le blanc, il y a toutes les couleurs. Mais avant qu'elles ne deviennent ce qu'elles sont. Donc en réalité, c'est comme si on nous disait, délavez-vous. Arrêtez de prendre un coloris, une nuance. Ni bleu ciel, ni bleu foncé, ni noir, ni gris, ni rouge, ni vert. Soyez à la source de tout. Donc vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, où on revient à la source de l'espace, du temps et de l'homme, même ici, à la source des couleurs, au blanc. Ce n'est pas par hasard que c'est la couleur avec laquelle on habille, qui n'est pas une couleur, les morts. Qu'est-ce que c'est que le mort? Il est dans la passivité la plus totale. Eh bien le jour de Yom HaKippourim, on devient un petit peu passif, comme un mort, concernant le monde qu'on connaît ici. Pour revivre dans un autre monde durant toute la journée de Yom HaKippourim. Donc on est un peu mort ici, mais vivant ailleurs. Ça vous va? Vous comprenez un petit peu? Où est-ce qu'on va devenir vivant véritablement, grâce, entre guillemets, à la mort d'ici? Dans cette pointe à la source de la vie, dans ce degré divin qu'on appelle Yom HaKippourim. C'est comme si on rentrait dans un mikvé divin, mikvé Israël Hashem, on rentrait dans un mikvé du divin et là-bas on se ressource totalement, à condition de ne pas gêner, d'être passif ce jour-là, c'est-à-dire passif à la traversée de Dieu, pas passif inutile, pas aller dormir, mais devenir passif pour que Dieu te traverse, de devenir en fait canal limpide, propre pour la circulation du divin à travers toi. devient un canal pour Dieu. Laisse-le passer. Laisse-le se dévoiler dans le monde en passant par toi. Ne gêne pas. N'obstrue pas tes canaux. Ouvre-les. Ouvre-toi. D'ailleurs, j'essaye de vous expliquer avec un maximum de termes pour que ce soit très clair. Donc, les nif'alut velo le'asiya beyom kippourim. Donc, on va moins faire, on va plus se laisser faire, se laisser traverser. Beyom asiyah be'kedushat hazman. Donc, dans cette journée qui est en fait le sommet de la sainteté du temps, donc avant le temps même, car on va toucher le point qui est avant le temps. Am Israël ba be'maga im shoresh advarim. Le peuple d'Israël vient en contact avec la source et la graine de toute chose. Umiyad le'achar ha'aliyah, ha'chada shel yom ha'kippourim. Et immédiatement, après cette montée brutale, car c'est une montée brutale, c'est un changement brutal dans notre vie, yom ha'kippourim. Eh bien, immédiatement après, chozrim anu el ha'metziut ha'gashmit shel ha'olam hazeh. On est obligé vite de revenir à l'existence réelle, physique, matérielle de ce monde. Qu'est-ce qu'on fait? La sortie de Yom Kippourim, on rompt le jeûne, mais pas seulement ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a fait. On commence à construire la soukha. Qu'est-ce que c'est le symbole? C'est revenir toucher la matière, toucher les éléments de ce monde pour dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait un voyage chez toi, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de faire tout ce que j'ai rencontré là-bas, ici, dans le monde de la matière, dans le bête. Exactement. Donc la soukha va profiter de toute la kdusha que j'ai recueillie là-bas, dans ce voyage, et je vais la faire descendre, cette kdusha, dans cette soukha. D'accord? Donc la soukha elle-même, c'est le nom de Dieu, les deux noms de Dieu. D'accord? Quand vous voyez le mot soukha, vous voyez que c'est l'enveloppe. L'enveloppe, okay, c'est le nom de Dieu que l'on dit, et l'intérieur, c'est le nom de Dieu que l'on voit. Okay. Si, immédiatement après. Tout de suite. Dès qu'on a rompu le jeûne, on va rentrer dans la soukha pour construire. D'accord? 4 jours après, c'est déjà la fête. Si tu n'as pas construit de soukha, je ne sais pas où tu vas rentrer. Ou alors tu seras invité chez des voisins. Est-ce que c'est clair? Donc on doit redescendre tout de suite. Encore une fois, parce que c'est quelque chose de très rare qu'on fait ici. Généralement, le judaïsme n'aime pas trop ce genre de jeu, c'est-à-dire de se détacher complètement du monde matériel. On n'aime pas trop. Mais Yom Kippourim, c'est nécessaire. Pourquoi faire? Pour
un renouveau.
Pas pour un renouveau. Pour réaliser d'abord que même ce monde matériel dans lequel je suis, sa source, elle est là où elle est. Elle est divine. Et donc je dois de temps en temps, on me fait toucher ce divin, on me dit, ne crois pas que ce monde est laissé à l'abandon, ne crois pas que ce monde est livré à lui-même, il y a un dirigeant, toutes les valeurs de ce monde sont des valeurs de Kodesh, toi tu es un petit peu paumé peut-être dans ce monde, tu as l'impression que les choses avancent n'importe comment, alors on va te faire un voyage une fois par an, on va tous en séminaire, on va rentrer dans un bus spirituel qui s'appelle Yom Kippourim. On va te faire toucher du doigt, de l'esprit, du temps, de l'espace, les points initiaux de tous ces degrés que je viens de dire. Et quand tu vas revenir dans ce monde, tu vas dire aux gens, tu sais, j'ai voyagé hier, j'étais dans un monde où c'est la source de tout. Ne croyez pas que ce monde, il est n'importe quoi. Oh, j'ai vu le patron. J'ai été chez le patron. Il y a un patron à ce monde. Qu'est-ce que c'est censé me faire? D'abord, me calmer. Pourquoi? Ça me rassure parce que je me dis que je ne suis pas livré à n'importe quoi. Il y a un dirigeant, quelqu'un veut de moi. Ce monde est dirigé. Les choses n'arrivent pas n'importe comment. Il n'y a pas des guerres parce que celui est devenu fou. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Et l'autre, il va nous tirer dessus, machin. Ça te calme, ça te rassure. Il y a quelqu'un, il y a un père qui dirige tout ça et qu'il est très proche. Donc tu te remplis de quoi? De joie, de simcha, de emouna. Comment s'appelle Chag HaSukkot? La fête de la Emouna et de la joie. Zman Simchatenu. Pourquoi? Ça devient clair maintenant. C'est limpide que quelqu'un veut de moi. D'ailleurs, la représentation de la Soukha, c'est que je suis sous sa protection. Je suis même capable de sortir de chez moi, des murs que je me suis construit, du béton, où je crois que c'est là-bas ma sécurité. Et je me mets dans une petite baraque de rien du tout. Et je me dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai compris que tout ce monde, c'est toi qui le tiens. Donc je peux dormir même dans un petit bout de bois de rien du tout. C'est toi qui surveilles ce monde. C'est toi qui es à la base de ce monde et ce monde est complètement divin. Je me donne à toi. Je vais dormir dans la soukha. Pas évident de dormir dans la soukha. Je me livre. Quand on est capable de dormir à côté de quelqu'un, c'est qu'on lui fait confiance. Si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous ne pourrez jamais vous endormir à côté. Ne serait-ce que de dormir à côté de quelqu'un qui conduit mal. Vous avez toujours l'impression qu'il faut que vous restiez éveillé parce qu'il fait n'importe quoi. Alors ça vous empêche de dormir. Et quand vous vous endormez à côté de quelqu'un qui conduit, c'est que vous lui faites confiance. Et la même chose dans la vie. Et donc Akadosh Baruch nous dit, dormez dans la soukha. Faites-moi confiance. Je suis là. Je vous protège. C'est moi le dirigeant de ce monde. Ce n'est pas le béton et les 3 mètres d'épaisseur de ton mur que tu as construit qui vont te surveiller. Est-ce que c'est clair? Tout ça, c'est grâce à Yom HaKippurim, à cette rencontre-là avec Yom HaKippurim. Donc on revient après. Et ça va aiguiser chez nous la valeur de toutes les choses. On va sortir de Yom HaKippurim et on va se dire, tu sais, finalement, le monde, ce n'est pas ce que je pensais. Maintenant que j'ai vu dans cette journée de Yom HaKippurim où on est monté, que je reviens dans ce monde pour construire ma petite soukha, j'ai d'autres valeurs. On m'a remis les pendules, donc l'heure, donc le temps, à l'heure. On a remis les pendules à l'heure. On a remis tout ce qui est en fait dans notre monde, toutes les valeurs de notre monde à leur source. J'ai vu qui est à la source de tout ça. Donc, maskir lanu et erko Elohi shel haolam. Donc, je me rappelle de la valeur divine de ce monde, tout simplement. Ki be'emet kol hakesher ben abriya ve'bora matril tamid min hayozma Elohit. Parce que le lien entre ce monde et le monde du divin commence toujours par le divin lui-même. C'est à l'initiative du divin et pas à notre initiative, à nous. Je ne peux pas chercher Dieu. Je ne peux pas aller chercher Dieu. C'est Dieu qui m'a déjà trouvé. Le peuple d'Israël n'a jamais choisi Dieu. C'est Dieu qui a choisi le peuple d'Israël. On le dit, « Asher bachar ba'anu mikol ha'amim ». C'est lui qui nous choisit. Non. Une fois que lui m'a choisi, j'ai le droit de refuser ou d'accepter ce choix et de vivre selon ce choix. Mais c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a l'initiative de ce choix. Okay? Lui m'a choisi et moi j'ai le choix d'accepter son choix, donc de le réaliser ou de l'étouffer en moi. Claire? Slicha, Yozma, c'est l'initiative. Ani a Yozem. Yozem, qui est Yozem? Okay? Donc je lui ai donné un sens. Bien entendu, c'est tout imagé. Mimala lemata, c'est toujours du haut vers le bas. C'est Dieu qui a choisi Abraham, c'est Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, c'est Dieu qui nous a donné la Torah, c'est lui qui est descendu de son univers dans le nôtre, qu'il a créé aussi. Vezeu sheberev Yom HaKippurim. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Avant de rentrer dans cette journée de Yom HaKippurim, comme elle est dangereuse, entre guillemets, qu'est-ce qu'on nous dit la veille de faire? C'est-à-dire que Yom HaKippurim, par exemple, cette année, c'est lundi. Donc, dimanche soir. Qu'est-ce qu'on va faire dimanche toute la journée? Il faut manger beaucoup. C'est bizarre. Et les sages nous disent que tout celui qui a mangé le 9e jour, donc la veille, et qui a bien bu, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. Donc, on va jeûner en mangeant. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que nous devons sentir le décalage. Et donc l'exagérer presque. Le mettre en exergue.
Entre la satiété et le
exactement. Entre ce que nous avons avec tous les plaisirs de ce monde et on va dire, tu sais, tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça appartient à quelqu'un. Je vais aller le rencontrer tout à l'heure. Et quand on ressort de cette même journée, on redescend pour manger encore une fois. Donc j'ai fait une parenthèse de cette journée qui est déconnectée de ce monde par 2 jours qui sont complètement dans ce monde. Vous avez compris? Donc avant et après, c'est complètement dans le monde. Pendant, c'est en dehors. Moralité, combien de jours j'ai jeûné? 3 jours. Car si j'ai mangé la veille, les sages me disent, c'est comme si j'avais jeûné 2 jours. Or, je jeûne déjà le 10e jour en plus, donc ça fait 3 jours de jeûne. Pourquoi c'est tellement important? Les sages nous disent que si on jeûne 3 jours, toutes nos fautes sont pardonnées. Et donc, ils nous ont permis de jeûner 3 jours en mangeant la veille, considérant comme si c'était 2 jours de jeûne, plus le jour où je jeûne vraiment. Donc, j'ai jeûné 3 jours. Et quand j'ai jeûné 3 jours, tout est pardonné. C'est comme si je me suis annulé totalement au divin. Vous voyez, il y a des combines juives très intéressantes que les sages nous expliquent et qui nous permettent de vivre cette journée comme il faut la vivre. Je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui. Si vous avez une question ou deux, parce que le cours est plus long, mais je pense que vous avez un petit peu touché juste ce que je voulais que vous touchiez, c'est-à-dire que ce jour-là appartient à Dieu, c'est un jour du divin, et il nous invite chez lui. On fait un voyage chez lui. Okay? Donc on va respecter les données, les mesures et les règles de la maison, de chez lui. On est chez lui le jour de Yom Kippourim.
Okay.
C'est pour ça que l'essentiel, en réalité, où se réalise vraiment la création du monde? Quand est-ce qu'elle se réalise? Oui, mais dis-moi pourquoi. Quand est-ce qu'elle se réalise, la véritable création du monde? Quand est-ce que Dieu se dit, j'ai bien fait de créer ce monde? Pourquoi? Dis-moi quelque chose de réel. Dis-moi quelque chose de réel qui s'est passé. D'accord, mais je veux quelque chose de réel qui s'est passé dans l'histoire, le jour de Kippour, de Yom HaKippourim, qui prouve ce que tu es en train de dire. Hein? Oui, mais vous n'avez pas encore touché le point. On a reçu la Torah le jour de Yom HaKippourim. C'est la première fois que les tables sont véritablement arrivées. C'est ça la conscience. Vous avez tout dit, mais il fallait dire le mot. C'est la première fois où la Torah divine est arrivée sur terre, en forme de table. Avant, elle s'est cassée. On a raté, vous vous rappelez? Première donnée a été cassée. Et cette fois-ci, ça a réussi. Donc les deuxièmes tables de la loi, celles, les seules qui sont arrivées sur terre véritablement et qui sont restées, sont arrivées le jour de Yom HaKippourim. Donc Dieu se dit, ce jour-là, j'ai bien fait de créer le monde. Le passage entre moi et ce monde vient de se réaliser. Toda Rabba.